18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir le fléau des punaises de lit et comment s'en débarrasser, car le phénomène n'a rien de marginal. Il a même tendance à prendre de l'ampleur. Les sites infestés se comptent par centaines de milliers et cela n'est pas sans conséquence, car les punaises de lit ont conduit plus de 70 000 personnes chez le médecin l'an dernier, d'après une étude de l'INSERM. On va voir au cours de cette émission quels sont les troubles provoqués chez les personnes concernées, car cela va bien au-delà des piqûres. Il y a notamment des conséquences psychologiques qui peuvent être importantes. On va tenter de comprendre également d'où viennent ces insectes qui avaient quasiment disparu en France dans les années 50, pourquoi ils sont de retour, comment s'en débarrasser, car dans ce domaine-là aussi, un auditeur averti en vaut deux. On verra quels sont les procédés utilisés pour les faire disparaître sans trop de dommages, quel est le coût de l'opération. Car en ces temps de pandémie, où l'on passe pas mal de temps à la maison, si l'on doit en plus partager son lit ou son canapé avec des punaises de lit, avouez que c'est la guigne. Avec nous pour répondre à toutes les questions que vous posez, trois invités. Deux sont à distance. Docteur Pascal Delaunay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Nice, vous êtes parasitologue, entomologiste médical au CHU de Nice, fondateur de l'INELP, l'Institut National d'Études et de Lutte contre les Punaises de Lit. À distance également, Cathy Racon-Bouzon, bonsoir.
Bonsoir.
Députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône, vous avez remis récemment un rapport sur le fléau des punaises de lit à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Dans ce studio à mes côtés, Stéphane Bras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du CS3D, qui est, si je ne m'abuse, la chambre syndicale de désinsectisation, désinfection, dératisation. C'est bien ça, tout un programme. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez les spécialistes pour répondre ce soir à toutes vos questions.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Un premier appel qui nous vient, eh bien, de Paris. C'est Céline qui est en ligne. Bonsoir, Céline.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous.
Mais je vous en prie, Céline, vous avez été confrontée à cette question des punaises de lit?
Malheureusement, oui.
C'est-à-dire, c'était dans votre logement parisien?
Exactement. Alors juste peut-être, effectivement, pour vous situer un peu le contexte, je vis à Paris dans une petite copropriété de 6 étages et en fait, il se trouve que l'ensemble de l'immeuble a été touché par les punaises de lit. Alors certainement par méconnaissance du sujet et puis peut-être aussi un peu par honte, un des copropriétaires en fait a négligé le problème et puis notamment en laissant traîner la situation, en gardant la situation sous silence et puis en achetant et en utilisant des produits de supermarché qui sont pas du tout adaptés. Donc on a fait intervenir le conseil syndical qui est intervenu et a réagi très rapidement en appelant une personne qui était très humaine et très très pédagogue, qui connaissait bien le sujet, donc qui est intervenu très vite. Mais si j'en fais référence à ma propre expérience, il y a eu quelques erreurs de commise et puis toutes les bêtes se sont propagées en fait dans les différentes pièces de mon appartement.
Céline,
voilà, donc ça n'avait pas suffi.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Je sais pas, c'est la peur d'avoir des insectes dans son logement, c'est quoi?
Alors, on passe par plusieurs phases, mais je peux vous dire que ça a été extrêmement compliqué à vivre. Il faut savoir que ça a duré à peu près 4 mois et encore c'est très peu par rapport à d'autres, mais c'est 4 mois de douleur psychologique atroce parce que je pense qu'on peut difficilement comprendre en fait tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais il se trouve que pendant 4 mois, j'ai dormi à peu près 3 heures par nuit. Je pleurais presque tous les jours de fatigue, de stress. Il faut savoir que c'est, on se pose des questions tous les jours. On se demande effectivement comment on va arriver à gérer la situation. On n'a plus de vie sociale. Pendant 4 mois, on n'invite plus personne chez soi. Il faut savoir qu'il y a aussi tout un protocole à mettre en place, qu'on est obligé de laver ses affaires, qu'on doit les enfermer aussi dans un sac hermétique pour éviter la propagation. On doit faire attention en allant au travail. On doit faire attention en allant à la salle de sport, en allant voir des amis, parce qu'il faut éviter de décontaminer. Et puis surtout, c'est un sujet qui est extrêmement tabou, c'est un sujet qui n'est pas connu. Et puis c'est un sujet qui du coup fait peur, les gens vous regardent bizarrement, étrangement. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un choc psychologique, un traumatisme. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai traité. Alors j'ai traité en faisant appel en fait à deux professionnels que j'ai trouvés après différentes recherches, en fait, à la chambre syndicale 3D, parce qu'il y a un catalogue de professionnels, donc j'avais toute ma confiance. Et du coup, j'ai fait intervenir un premier pour avoir un état des lieux, en fait, en effectuant une détection canine. Et puis, une deuxième entreprise pour le traitement de la situation.
Et donc, aujourd'hui, ça va mieux, Céline?
Alors, aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux chez moi. Simplement, c'est une vraie phobie. Et je peux vous dire que 6 mois après, je suis toujours traumatisée. C'est-à-dire que si là, j'ai le bras qui me démange, par exemple, je vais rallumer la lumière, je vais regarder, observer, rechercher avec la lampe torche pendant de longues minutes pour m'assurer qu'en fait le phénomène n'est pas revu.
Merci Céline pour ce témoignage qui en dit long sur ce que ça peut représenter, parce que c'est vrai que certains découvrent peut-être le phénomène ce soir en vous écoutant. C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour qu'on puisse apprendre à connaître ces punaises de lit, effectivement tout ce qui se cache derrière. Merci mille fois Céline d'avoir témoigné. Docteur Pascal Delaunay, ce témoignage de Céline, il résume bien la difficulté.
Ben malheureusement oui, il résume très très bien la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a toujours finalement une méconnaissance au départ qui fait que la punaise de lit a le temps de s'amplifier. Et puis, on peut atteindre des lieux contaminés de plus en plus importants. Au début, c'est la chambre. Après, c'est les deux lieux de couchage, éventuellement dans un logement. Puis après, tout le logement. Et puis après, les autres logements, tout le bâtiment. Et donc, c'est tous ces gradients de taux d'infestation qui sont d'abord très durs à gérer pour les syndics, les municipalités ou les désinsectiseurs. C'est pour ça qu'assez souvent, c'est bien d'avoir un chef d'orchestre, surtout en finale. Et puis, comme la punaise de lit ne transmet aucune maladie, elle a été beaucoup, beaucoup négligée par les pouvoirs publics qui maintenant s'en occupent. Mais en fait, elle transmet énormément de troubles psychologiques, psychiatriques, et elle détruit. Pourquoi elle détruit ? Parce qu'elle casse le sommeil, elle met en hypervigilance. Et à ce moment-là, si on dort plus et si on se met en hypervigilance, on se met en stratégie de survie, de lutte. Et comme il n'y a aucun mode d'emploi de comment finalement arrêter cette lutte, les gens sont en lutte permanente.
Alors, on va essayer vraiment de faire de la pédagogie ce soir avant toute chose. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui êtes à la fois parasitologue et entomologiste médical, à quoi ressemblent les punaises de lit ? Déjà, comment fait-on pour savoir si on est confronté aux punaises de lit ? Quelle est la taille de l'animal, sa couleur ? Est-ce que ça rampe ? Est-ce que ça vole ? Est-ce que ça saute ? Dites-nous tout.
Alors, ça saute pas et ça vole pas. C'est un insecte qui n'a pas d'ailes, qui est pas capable de sauter. C'est un insecte extrêmement plat de 1 mm quand il sort de l'œuf et 5 à 6 mm quand il est adulte. Il y a 5 stades de larve. Donc c'est avant d'être un adulte, elle passe par 5 repas pour à chaque fois grandir, puisque les insectes grandissent par stade. Et le souci, c'est que tout le monde pique. Papa, maman et les enfants, les jeunes, les ados, les pré-ados, tout le monde pique. Tout le monde ne sait que prendre du sang. Donc le taux d'infestation est déjà très très fort. Et donc, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que les punaises de lit, ça se voit toujours. C'est-à-dire qu'après, on met un peu, parfois 3 jours à 10 jours pour les voir. Mais les punaises de lit qui se voient pas pendant un mois ou deux mois, ça n'existe pas.
Docteur Delaunay, pardon, si on les voit et qu'on commence à se poser la question, c'est avant tout parce qu'on a été piqué. Sinon, il n'y a pas de raison de les voir, si ?
Si, il y a des gens qui sont heureusement ou malheureusement pas allergiques. Donc le signalement par la piqûre n'est pas le seul signalement possible. Tout comme la piqûre n'est pas obligatoirement un diagnostic de punaise de lit. Je reçois beaucoup de gens qui m'imposent que ce soit des punaises de lit qui les piquent de la tête aux pieds, et c'est d'autres insectes. Donc ce qu'on appelle l'identification de certitude au départ est indispensable. Vous l'avez entendu, la lutte elle est extrêmement dure, elle est compliquée. Elle est anxiogène, elle est longue, et à ce moment-là, il faut ce diagnostic de certitude, être sûr qu'il y a des punaises de lit, et quand c'est des insectes, être sûr que c'est bien une punaise de lit. Et à ce moment-là, vous avez 6 étapes de traitement qui sont à garder en ligne de mire, et les gens perdent leur ligne de mire, et à ce moment-là, ils partent dans un capharnaüm où ils perdent le nord et ils n'y arrivent plus.
Alors on va voir effectivement ce qu'il faut faire pour réagir. Stéphane Bras, vous qui êtes un spécialiste du sujet, comment peut-on être certain du diagnostic ? Est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Est-ce qu'il faut appeler quelqu'un ?
Bien, aujourd'hui, il est possible à travers Internet déjà de se donner une idée par rapport à l'imagerie que vous pouvez retrouver sur Internet. Quoi qu'il en soit, entre l'imagerie et la réalité, il peut y avoir un écart. La réalité aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tant qu'experts et professionnels, on sait forcément identifier non seulement les présences effectives, mais ça peut être aussi des mues, ce qu'on appelle l'enveloppe de la punaise de lit. Et puis en fait, il y a aujourd'hui donc soit l'œil d'un expert qui est très aiguisé, mais il y a aussi, on le disait, et cette dame le disait disais au téléphone, l'emploi de détection canine avec des chiens spécialement formés, qui peut être une aide précieuse parce que les chiens vont voir, entre guillemets, à travers les murs, vont sentir à travers les murs. Donc, c'est le préalable, une très bonne inspection et le préalable à toute action.
Cathy Racon-Bouzon, vous qui êtes députée, qui vous êtes intéressée particulièrement au sujet en rédigeant un rapport sur le problème, quand vous entendez Céline sur l'ampleur du problème dans sa vie, qu'est-ce que vous dites, vous, qui vous êtes penchée sur ce sujet? C'est un vrai problème de santé publique qu'il faut prendre à bras le corps?
Oui, c'est évidemment un vrai problème de santé publique. Est-ce que les propos tenus par Céline l'illustrent parfaitement, puisque ça démontre toute la complexité de la lutte, tous les dommages, et que ce soit des dommages psychologiques, un isolement social, toutes les conséquences néfastes pour notre vie que ces punaises de lit peuvent imposer. Donc effectivement, aujourd'hui, la question pour les pouvoirs publics est de pouvoir s'emparer de la question, de connaître le phénomène, de pouvoir lutter efficacement contre son expansion, puisqu'aujourd'hui, effectivement, c'est un phénomène qui est en expansion. L'un des problèmes qui a déjà été souligné plusieurs fois dans le cadre de nos échanges, c'est le problème de la connaissance. Si aujourd'hui peu de gens arrivent à identifier tôt la présence de punaises de lit, c'est parce qu'on a un problème de prévention, un problème de connaissance du fonctionnement de la punaise de lit, un problème de connaissance de la manière dont on peut l'importer chez soi. Et donc on manque de gestes barrières, puisque c'est un terme malheureusement à la mode, pour pouvoir se prémunir face à l'arrivée des punaises de lit. Et le manque de connaissance ne permettait pas jusqu'à aujourd'hui de prendre conscience, donc entraîner aussi un phénomène de honte, une forme d'omerta autour de la question de la punaise de lit. Et donc, absence de connaissances, absence de surveillance et donc absence de politique publique pour lutter contre efficacement.
D'où la nécessité d'avoir une politique publique, on y reviendra. On va aller au Lila, c'est en région parisienne, décidément, il y a des punaises de lit en région parisienne. On fera d'ailleurs un petit état des lieux. Marie-Geneviève, bonsoir.
Oui, bonsoir et merci. En fait, ma question a un petit peu évolué parce que moi, en fait, je ne suis pas sûre justement d'avoir des punaises de lit. C'est parce que j'avais l'impression d'avoir des démangeaisons depuis quelques jours, le matin, mais aussi parfois dans la journée. Et parce que j'ai lu un article dans Le Parisien. Alors je me demande si c'est un effet psychologique que je fais un petit peu de paranoïa ou pas. Donc ma question, c'était effectivement de savoir comment on pouvait être sûr d'avoir le bon diagnostic. Et j'ai vu dans un magasin de bricolage qu'ils proposaient des petits dispositifs pour tester, identifier si on en a chez soi. Donc je voulais savoir si vous connaissiez ce genre de choses
et si c'était efficace.
Ça avait du sens.
Merci beaucoup Marie-Geneviève. Stéphane Bras, méfiance par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce ou pas ?
Il s'agit en fait probablement pas de méfiance, mais en tout cas, si vous voulez, on parle probablement de détecteurs à phéromones. Éventuellement, c'est une phéromone qui va attirer éventuellement la punaise des lits, mais j'ai bien dit éventuellement. Réellement, madame, le fait est, c'est qu'il faut une inspection minutieuse et détaillée pour aller à la recherche de traces. Les traces, c'est quoi ? C'est éventuellement les œufs qui peuvent. Je pense que le docteur Delaunay pour affirmer cela, on peut les voir à l'œil nu, hein, avec une recherche et un œil un peu aiguisé, les larves en particulier, et plus les stades sont avancés, on a quand même des traces. Et il y a des traces, c'est peu ragoûtant, mais globalement il y a des traces de déjection en des lieux de refuge que forme la punaise des lits, qui sont des traces évidentes de présence, voilà, naissantes ou anciennes.
Docteur Delaunay, sur ce que demande Marie-Geneviève, et puis je voudrais ensuite que vous nous disiez un petit peu quelles sont les régions les plus concernées, parce que là on a deux appels de la région parisienne, mais j'ai cru comprendre que du côté de la région de PACA, le phénomène était important.
Oui, alors en fait il y en a dans tous les départements, donc soyons tous rassurés, d'outre-mer partout.
On partage.
Voilà, on partage bien. Après c'est sûr que malheureusement il y en a qui gagnent le gros lot, c'est-à-dire que le gros lot c'est surtout Île-de-France, la région lyonnaise et puis la région marseillaise et niçoise. Voilà, ça c'est les trois grands gagnants malheureusement du taux d'infestation, mais comme toute la France est un pays extrêmement touristique, toute la France et tous les départements de France ont le droit à leur punaise de lit.
Alors vous avez un petit peu commencé à répondre aussi à une autre question qu'on se pose, c'est comment elles arrivent dans les logements, ces punaises de lit. Vous venez de parler du tourisme, ça veut dire elles rentrent par où ? Par la fenêtre, alors, par la porte, c'est nous qui les trimballons en fait.
Oui, c'est vraiment. Alors c'est vrai qu'on accuse toujours le réchauffement climatique pour plein de choses, mais le transport international est une énorme cause de répartition de maladies infectieuses. De toute façon, on le vit pour le Covid. Vous voyez, c'est pas pour le Covid, on parle pas de réchauffement, c'est le transport. transporte tout et transporte bien sûr n'importe quel insecte. Donc la punaise de lit, pourquoi elle a disparu, pourquoi il y en a plus et pourquoi elle est revenue? Elle a disparu dans les années 40-50 parce que on a complètement restauré nos logements, on a mis de l'insecticide absolument partout en s'en moquant contre une lutte anti-cafard avec du DDT qui était extrêmement rémanent, donc malheureusement ça marchait très très bien. Et puis il n'y avait pas trop de résistance. Après ce qui s'est passé, mais elle restait partout dans les autres endroits, dans les pays en développement, elle restait. Et puis dans les années 50-90, finalement on a oublié tout ça. Donc comme l'a dit très bien Madame Cathy Racombouzon, on a oublié. Donc de 50, on veut dire des années 70 à 90-2000, on a oublié. Et à partir du moment où on oublie quelque chose, on n'est pas capable de le voir réapparaître. Et puis le transport international a littéralement explosé dans les années 90-2000. Et puis Asma, donc on a été les rechercher dans les pays en développement, puisque de toute façon elle avait disparu elle n'avait pas disparu dans les autres pays. Et puis on a été les rechercher dans ces pays-là. Et puis avec tous ces containers qui nous arrivent, tous ces transports internationaux, touristiques, commerciaux, on a été les rechercher. Et puis une fois qu'elles étaient rentrées chez nous, elles s'y sentent bien. Et puis elles y resteront tant qu'on mènera pas une lutte cohérente. Entre les ministres, c'est sa problématique. Elle est extrêmement transversale. Elle impose un chef d'orchestre.
Une réponse globale.
Et si on ne fait pas le chef d'orchestre dans cette problématique-là, c'est un des rôles de l'INELP qu'on a mis en place. On va pas s'en sortir parce que chacun va faire son petit bout et la punaise de lit sera rentrée dans les autres petits bouts et on s'en sortira que difficilement.
Alors on va évidemment, docteur Pascal Delaunay, revenir sur la réponse à apporter. Stéphane Bras, je voudrais encore qu'on dise un petit mot de l'endroit où se mettent les punaises de lit, parce qu'on a compris comment elles arrivaient chez nous. Quels sont leurs endroits favoris? J'ai cru comprendre qu'elles aimaient les endroits sombres, particulièrement les matelas. Pas uniquement.
Alors en fait, elles vivent autour du dormeur ou de la personne en repos. En clair, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire forcément le lit, mais ça peut être les canapés, les fauteuils, là où on a l'habitude de faire une sieste, et elles vont chercher à se mettre autour de la personne qu'elles vont piquer, et par conséquent, occuper tous les lieux possibles et imaginables autour d'un lit. Ça peut être un chevet, un tableau, un luminaire, des jouets, des livres. La liste est extrêmement longue des endroits où on les retrouve, mais juste pour confirmer ce que disaient les deux personnes précédentes, Mme Racombouzon par exemple, je pense qu'il y a, nous en tant que professionnels, ce que l'on attend, on a l'expertise. On a les moyens de traiter. Mais par contre, effectivement, l'outil pédagogique dont parlait Mme Racombouzon et d'ailleurs le docteur Delaunay également, la prévenance...
Il manque un plan cohérent, global.
Un plan cohérent. Savoir à quoi on s'attaque, ça n'empêchera pas la punaise d'être là, mais au moins, on saura quoi faire et dans le bon sens. Et ce que disait l'auditrice de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, une fois que c'est parti... ça devient une catastrophe. Et nous, on fait de l'assistance psychologique encore plus, des fois, que le traitement lui-même. Et je rejoins parfaitement votre propos, c'est que on a une vraie problématique. Moi, ça fait très longtemps que j'exerce ce métier. Et le docteur Delaunay disait que ça avait pratiquement disparu. C'est effectivement le pratiquement disparu. Il y avait encore quelques foyers. Et les traitements étaient très sporadiques. On avait des traitements une fois tous les 3 mois. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, on est appelés plusieurs dizaines de fois par semaine. Voilà, donc, et sur des cas critiques, parfois très critiques.
Donc c'est pas marginal et effectivement les conséquences sont importantes. Marion, encore un appel de Paris. Bonsoir Marion.
Oui, bonsoir.
On entendait parler de conséquences psychologiques. Vous pouvez confirmer qu'effectivement ça a des conséquences? Vous avez été confrontée au problème?
On a été confrontée au problème pendant le confinement. Donc très vite c'est devenu une catastrophe et ça a duré 4 mois comme votre première auditrice. Et très vite, ça atteint le cerveau parce que ça nous empêche de dormir. On se réveille la nuit. Mon compagnon se réveillait avec sa lampe frontale pour aller vérifier s'il voyait les punaises de lit. Quand il en voyait, il était fou. Quand il n'en voyait pas, il était fou aussi parce qu'il, du coup, il les cherchait. Donc après, c'est une spirale et on ne dort plus. On y pense toute la journée. Et après, tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il faut laver, trier toutes ses affaires, passer à la vapeur ses livres, ses vêtements, ses rideaux, ses coussins. Et c'est infernal. C'est infernal. Toute sa vie est mobilisée.
Mais en tout cas, vous témoignez qu'on peut s'en sortir.
Alors oui, ce que je voudrais dire quand même, c'est que si on est patient, et surtout si on a beaucoup de rigueur, on s'en sort. Voilà, donc en fait, l'entreprise qui nous a suivis a eu beaucoup de psychologie, et elle nous disait, comme ce que je vous venais de dire, qu'il fallait d'abord être psychologue avant même de traiter un appartement. Et c'est vrai, elle nous a dit, mais on va s'en sortir, effectivement. On a tout rangé, on a mis tout hermétiquement. Et en fait, on finit
par y arriver. Merci Marion.
Ouais, c'est d'abord la méthode avant tout. Oui.
Merci mille fois pour ce témoignage. Je voudrais avant de repartir dans le sud, qu'on prenne en ligne Morgane Bourvin, qui est journaliste à Que Choisir, parce que l'UFC Que Choisir vient d'organiser une consultation. Bonsoir Morgane Bourvin.
Bonsoir.
Je crois que cette consultation, vous l'avez faite auprès de vos lecteurs. Elle est d'ailleurs toujours en cours. En deux mots, qu'en est-il ressorti ?
Il en a ressorti plusieurs choses. Le premier point très important, c'est ce que disaient vos deux auditrices, c'est que la lutte peut durer très longtemps. Nous, parmi les centaines de témoignages qu'on a reçus, environ 700, les trois cas avaient réussi à vaincre cette infestation, mais chez un quart, c'était encore en cours. Et pour la moitié d'entre eux, c'était en cours depuis plus de 3 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure très longtemps et qui, par conséquent, peut entraîner des frais très importants. La moyenne chez les personnes qui nous ont répondu, c'est 1200 euros de frais pour traiter cette infestation. Donc il y a l'appel aux sociétés spécialisées qui peut coûter plusieurs centaines d'euros, mais il y a aussi le rachat de meubles, par exemple, ou tout simplement l'achat de produits en supermarché. Et un dernier point très important de cette étude, c'est justement sur l'achat de produits en supermarché. Alors nous, ça ne nous a pas étonné, parce que chez Que Choisir, on avait déjà testé ces produits l'année dernière, mais en fait, les lecteurs nous ont confirmé qu'ils ne fonctionnent pas, que ces produits, les fumigateurs, les pièges, etc., n'ont quasiment aucun impact sur l'infestation. Ce que nous ont dit, ce qu'ont témoigné nos lecteurs, c'est qu'il est possible de venir à bout de cette infestation par soi-même, sans faire appel à une société spécialisée, grâce à des moyens mécaniques, par exemple utiliser un aspirateur, utiliser un nettoyeur vapeur, passer tous ces tissus, ces vêtements, etc. au congélateur. Donc tout ça, c'est possible. Il faut avoir beaucoup de rigueur, comme disait l'auditrice juste avant, mais c'est faisable. Mais en tout cas, tous ces produits, fumigateurs, insecticides, fumigènes, pièges, etc., tout ça ne fonctionne pas. Nous l'avions testé en laboratoire et les lecteurs nous l'ont confirmé.
Merci beaucoup pour ces précisions. Stéphane Bras, vous rejoignez ce que dit notre représentant de l'UFC Que Choisir ?
Oui, je rejoins parfaitement. En réalité, nous, en tant que professionnels, en quelque sorte, on a une caisse à outils, hein, très clairement. Et tout part du diagnostic dont on parlait tout à l'heure. De sa pertinence va être déterminée les moyens d'action. Déjà, on va conseiller tout simplement des choses simples, hein, que nous ne faisons pas faire, c'est-à-dire le lavage 60 degrés, le fait
de mettre au congélateur
quand on peut. Mais dans les caisses à outils professionnelles que nous avons, nous allons, si vous voulez, de traitement, on va dire, classique, hein, à base d'insecticides autorisés. J'insiste sur l'aspect de l'autorisation et de l'insecticide et du professionnel qui l'applique. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, en allant sur Internet, vous risquez de tomber sur des professionnels ou voire même des produits qui sont même pas autorisés en France. Donc nous, on peut partir de ces traitements-là, classiques. Après, on va travailler aussi sur des moyens mécaniques, hein, que sont la vapeur, que sont des applications de la terre de diatomée, c'est important, bien et correctement appliqué. Et puis après, à l'autre bout de la chaîne, on a des traitements d'envergure qui sont effectivement des traitements par le grand froid, donc la congélation avec certaines mesures, et le grand chaud, entre 55 et 60 degrés, on va traiter des volumes entiers, on peut traiter des bâtiments, des appartements.
Docteur Pascal Delaunay, il vaut mieux éviter les produits chimiques dans la mesure du possible ?
Toujours, oui. En fait, moi, je reçois tous les patients que je reçois, je les suis à 100%. Hein. Bon, pour des particuliers dont seul leur appartement, leur logement est infesté, j'ai 100% de réussite si la personne veut s'investir. Donc, ce que vous avez bien entendu, c'est qu'il doit y avoir un investissement de l'occupant. C'est ça qui est très pénible. Et c'est vrai que quand l'occupant est âgé ou est handicapé, là, ça devient problématique. Mais on peut toujours s'en sortir. Quand l'infestation est petite, on peut toujours s'en sortir dans une lutte, ce qu'on appelle mécanique. Hein, la chaleur, comme l'a dit monsieur Bras, la chaleur, le nettoyage, le chauffage ou la congélation. Ce dont j'ai envie d'insister, c'est qu'en fait, c'est une problématique de curseur qu'il faut mettre au bon endroit. Vous voyez, les gens vont sur Internet, ils mettent le curseur à fond, et à ce moment-là, ils vont tout nettoyer chez eux. Le lit, le canapé, les placards, l'arrière-boutique, tout. Et du coup, ils mettent le curseur trop fort et ils s'épuisent. Et en fait, il y a quand même un gradient. Et, ou alors, vous avez le curseur inversé. La personne, pour votre première auditrice, Céline, le curseur inversé où les gens ne font rien. Et là, ça augmente. En fait, la difficulté de mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire que, comme l'a dit Monsieur Bras, quand j'en ai que dans mon lit ou que dans mon canapé, eh ben on ne lutte que contre le lit et que sur le canapé. Et à ce moment-là, on met le curseur au bon endroit et les punaises de lit sans insecticides vont habiter que là. Et avec du nettoyage, du chauffage et de la congélation, on s'en sort. Et moi, je fais que baisser le curseur des gens qui sont en burn-out ou en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien et ils sont encore en train de lutter parce qu'ils ont mis le curseur au mauvais endroit et Internet ne montre pas où faut mettre le curseur.
Cathy Racon-Bouzon, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne Fatih, qui est justement dans votre département. Il est à Marseille. Bonsoir, Fatih.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vous remercie. Moi, je voudrais juste rappeler quelques éléments. D'abord, que c'est un phénomène qui touche tout le monde et qui n'est ni un problème d'hygiène, ni un problème de situation sociale. Ce qui fait que face au coût du traitement pour éradiquer, eh ben, nous ne sommes pas égales face à ça. Ce qui explique pourquoi dans les quartiers les plus pauvres et parmi les populations les plus pauvres, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils débarrassent leur lit, leur matelas, ils ne peuvent pas faire appel au 3D. Et donc, du coup, certains même quittent leur logement, il faut le savoir, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, la vraie question aujourd'hui à se poser, c'est, un, pourquoi les politiques publiques, l'État en particulier, ne considèrent pas réellement cela comme un problème de santé publique. Il faut savoir que l'État, le gouvernement, a déjà fait un pas, il y a quelques années avec la loi Elan, en reconnaissant que c'est un problème de rapport locatif, et en demandant aux propriétaires de prendre en charge une partie des frais. Mais ce n'est pas, on en est encore très loin. Et il faut savoir que si on ne reconnaît pas ça comme un problème de santé publique, si on ne reconnaît pas ça comme un problème économique, socio-économique, on ne peut pas avoir l'aide, quand on ne peut pas s'en débarrasser, des pouvoirs publics, notamment par le Fonds de solidarité logement, par exemple, ou par d'autres aides. Ça, c'est un élément important. Et sur la question de s'en débarrasser, il est vrai qu'on peut s'en débarrasser sans avoir à faire appel à des sommes folles, par exemple comme celle du chien renifleur, qui est une très bonne solution, mais qui coûte très cher.
Merci, Fatih.
C'est pour ça que nous, on a fait un jeu de cartes, pour permettre aux personnes les plus en difficulté de justement apprendre par eux-mêmes à se débarrasser et à connaître l'ensemble des armes possibles et qu'il faut utiliser pour s'en débarrasser.
Eh ben merci pour toutes ces informations, Fatih. Je savais pas qu'il y avait des jeux de cartes pour ça. Merci pour cette initiative, Cathy Racon-Bouzon. Suite au rapport que vous avez remis à la ministre du Logement, très sincèrement, il ne s'est pas passé grand-chose à part un petit peu d'informations, si. Est-ce que le problème est suffisamment pris en compte au niveau du gouvernement?
Alors j'ai remis mon rapport en septembre dernier à Emmanuel Wargon, sachant que cette mission qui m'a été confiée pendant 6 mois était déjà la 3e étape d'un plan d'action qui avait été amorcé par Julien de Normandie l'année dernière et qui avait permis de mettre en place sur le site du ministère stoppunaise.gouv qui permettait de donner déjà un minimum d'informations aux personnes infestées sur les gestes à avoir et puis aussi un numéro unique qui permettait de renvoyer vers les ADIL pour pouvoir avoir un conseil juridique et donc avoir des informations sur ce que la loi Elan introduisait en 2018 dans le droit au logement, à savoir qu'effectivement, la responsabilité et la charge du financement de la désinfestation était à la charge du propriétaire, puisque ça a fait rentrer les nuisibles dans les critères de décence d'un appartement. Donc, cette mission était déjà l'aboutissement, une étape supplémentaire plutôt qu'un aboutissement d'un plan d'action engagé. Aujourd'hui, effectivement, des mois ont passé.
Je me permets juste de vous couper, parce que effectivement, à Paris, par exemple, les élus locaux de la majorité municipale. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises au niveau de certains bailleurs sociaux à Paris, où les locataires vont être mis à contribution moyennant 4 euros par an, si jamais ils ont besoin d'une intervention. Mais par exemple, les élus locaux demandent, en appel à l'État, pour qu'il y ait une véritable politique.
Oui, c'est ce que l'État est en train de travailler aujourd'hui. En fait, un des conclusions de ce rapport a été de constater, ça a déjà été dit, une absence aujourd'hui de coordination. Le fléau de la punaise de lit est extrêmement diverse dans les secteurs qu'elle touche. On a parlé beaucoup du logement, mais ça touche aussi le secteur du tourisme, le secteur du transport, le secteur de la culture. Il y a une diversité énorme aussi d'acteurs à mobiliser, à la fois ceux qui traitent, mais aussi très en amont les médecins, les infirmiers, les travailleurs du médico-social qui peuvent aller procurer des gens et donc se rendre compte qu'il y a des punaises de lit chez les gens et donc les informer et les aider à réagir. Et il y a une multiplicité aussi d'actions à activer. Donc tout ceci appelle une réponse multiforme, coordonnée dans un plan d'action global et extrêmement interministériel. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est qu'on est en train de décloisonner au sein des différents ministères et des réunions de travail sont amorcées pour pouvoir construire une feuille de route basée sur les conclusions du rapport, mais qui apportera une réponse, pas par un petit bout de la lorgnette, mais une réponse globale attendue pour agir plus fortement. Et notamment, je rebondis pardon sur ce qu'a dit Fatih, votre auditeur au téléphone, la question du financement est absolument primordiale. On n'est pas tous égaux, on est tous égaux sur la possibilité d'avoir des punaises de lit chez soi, puisque ça ne choisit pas notre milieu social. En revanche, on n'est pas tous égaux pour éradiquer les punaises de lit. Et moi, je fais des propositions dans le rapport pour pouvoir justement impliquer la CAF, notamment, qui puisse aider au financement des personnes les plus fragiles, qu'ils soient locataires ou propriétaires fragiles, vulnérables, et qui a besoin aussi d'un accompagnement, pour pouvoir effectivement éviter que des familles se retrouvent en très grande difficulté et que les infestations se propage.
Bien sûr. Effectivement, il y a tout un besoin de tout un plan. On a encore des auditeurs qui sont au standard. Finalement, c'est un vrai, vrai, vrai sujet ce soir. On en a la confirmation. Je ne vais pas pouvoir vous prendre tous, malheureusement, notamment Sébastien à Strasbourg, qui nous dit à quel point cela lui a coûté cher. On a déménagé, ça nous a coûté 4000 euros toute cette affaire. Il y a aussi Fatima à Paris qui nous demande, et ça c'est pour vous cette question, Stéphane Bras, est-ce qu'il y a un moyen d'identifier les sociétés efficaces? On est tombé sur 3 charlatans. Ça nous a coûté une fortune.
Oui, mais écoutez, là, je vais prendre le rôle qui est le mien, c'est-à-dire qu'effectivement, je représente la CS3D, qui est une organisation ancienne, hein, on va sur notre site. On retrouve, il y a un annuaire, hein, c'est pas toutes les fédérations qui ont cette logique-là. On va sur notre site et vous avez au moins la certitude d'avoir un interlocuteur identifié, dont les acteurs et les techniciens qui viennent chez vous ont le certibiocide et qui est une marche pour l'autorisation des produits. Donc, très clairement, c'est une première marche et on le conseille vivement. Et effectivement, comme le disait Madame Racon-Bouzon tout à l'heure, nous avons été aussi complètement liés avec Monsieur de Normandie, le ministre, sur ce projet, où on a passé une convention, effectivement, avec l'engagement sur des chartes de qualité, nous, en tant que CS3D.
Merci beaucoup, Stéphane Bras. Merci beaucoup, Cathy Racon-Bouzon. Docteur Pascal Delaunay, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Pour vous, la priorité des priorités aujourd'hui?
C'est la formation. La formation, mais vraiment de tous les corps de métier et toute la population. Formation des particuliers, formation des professionnels, parce que Monsieur Bras l'a dit, c'est une première marche, mais la première marche, je vous assure qu'elle est extrêmement basse. C'est ce qui nous fait un peu peur, malheureusement. Et donc, quand vous êtes applicateur insecticide, vous savez mettre du produit. Mais alors, bonjour les dégâts, parfois. On vous demande pas de vous mettre du produit, on vous demande de faire une lutte mécanique, on vous demande de faire une identification. Il faut former tout ce qui est accueil du public, toutes les structures d'accueil du public, les hôtels, les salles de spectacle, les transports. Et puis, il faut former les municipalités. J'essaie de travailler avec la ville de Nice. C'est-à-dire qu'il faut former les structures dans les municipalités, les encombrants, les services d'hygiène. C'est tellement transversal, comme l'a dit Madame Racon-Bouzon, en fait, si vous voulez, que c'est cette chefferie d'orchestre qui est dure à mettre en place. Et si vous ne mettez pas un vrai chef d'orchestre, ça part dans tous les sens. Et comme l'a dit la toute première auditrice Céline, vous voyez, il y a des insecticideurs qui sont venus. Et après, elle a dû encore, elle, bosser toute seule comme une grande. Et juste pour dire
très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé notre temps.
Vous voyez, Fatim l'a très bien dit, malheureusement, des gens très, très défavorisés n'ont pas de moyens. Et pourtant, ils jettent leur lit. Et donc, c'est quand vous additionnez cette somme des gens défavorisés, ils ont perdu 100, 200, 500, 5000 euros. C'est des sommes de gens comme ça, extrêmement pauvres, qu'on perdu 5000 euros, alors que si on les avait bien formés, ils n'auraient dépensé que 100 ou 120 euros parce qu'ils auraient acheté juste un appareil à vapeur et un bon aspirateur et ils s'en seraient sortis.
Merci beaucoup docteur Pascal Delaunay. Je précise qu'il existe aussi un petit guide de survie pour faire face à une évasion de punaises de lit aux éditions Erol. Il y a évidemment aussi un numéro de téléphone mis en place par le gouvernement, le 0806 706 806. Merci à tous de nous avoir appelés et merci à vous d'avoir répondu à nos questions.